sexualisation de la femme.
Ah, ça tombe bien, Marceau aussi.
Marceau le midi. Marceau le midi.
On est le même, nous autres, 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, ça doit commencer à être très occupé actuellement, parce qu'on le sait, les gens qui se trouvent toujours des rendez-vous très importants le vendredi après-midi.
Trouves-tu?
Coach Gilbert, es-tu au bureau, Coach Gilbert, où il y a un rendez-vous très important?
Je le vois toujours, et là, c'est sûr qu'il nous écoute. Il nous écoute tout le temps, voir si on parle de lui. Malheureusement, je ne pourrai le défendre aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Donc, Coach Gilbert, si tu es au travail, en studio à quelque part, il va falloir te mettre le petit visage dans la porte, là.
Ouais.
Parce qu'on pense que tu es peut-être chez toi dans la piscine.
Non, dans un rendez-vous très important, sur un terrain de golf ou encore dans un restaurant de la grande région de Québec. À gérer des grosses affaires.
À brasser des grosses affaires.
Ouais. Hey, y a-t-il quelques jours, l'ex-juge Jacques Delisle, qui a été déclaré coupable d'avoir tué sa femme, Nicole Rainville, je pense que c'était en 2009 de mémoire, il est décédé, puis on parle d'une saga historique dans son cas, là, du jamais vu, un ex-juge qui a été déclaré coupable du meurtre de quelqu'un. Ça s'était pas vu, c'était la première fois au Canada. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Juge Delisle qui a passé des années en prison jusqu'à temps qu'un ministre fédéral se penche sur son dossier et dise finalement « Ben, je regarde les papiers de cour et tout ça. Je pense qu'il y a une erreur judiciaire qui a été commise. » Puis il devrait peut-être y avoir un nouveau procès. Donc, juge Delisle qui avait été relâché à ce moment-là. Puis il y a une personne qui est là depuis les tout débuts de cette histoire-là. C'est Catherine Lamontagne qui a d'ailleurs écrit un livre sur l'histoire de l'ex-juge Delisle qui est au bout du fil, qui est avec nous. Salut, Catherine!
Allô, allô!
Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se termine comme ça, l'histoire du juge Delisle, ou t'aurais aimé savoir le fin mot de l'histoire, là?
Bien, c'est sûr que l'histoire de l'ex-juge Delisle a pris fin, juridiquement parlant, là, au printemps dernier, quand Jacques Delisle a, contre toute attente, plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire. Tu le dis bien, là, le fin mot de l'histoire, on le connaîtra probablement jamais. Parce qu'au moment du plaidoyer de culpabilité, en mars dernier, Jacques Delisle, lui, a reconnu avoir fourni une arme chargée à son épouse, qui était paralysée du côté droit, qui était dépressive et qui voulait en finir et qui serait elle-même passée à l'acte. Alors qu'immédiatement, la couronne a dit, bien écoutez, nous, on accepte le plaidoyer de culpabilité à l'accusation d'homicide involontaire, mais on n'est pas d'accord avec cette trame factuelle-là. Et selon la couronne, M. Delisle aurait eu un rôle beaucoup plus important là, dans le décès de sa femme, un rôle, en fait, qui, selon la couronne, là, ce qui reflète davantage la réalité, c'est l'issue du premier procès, donc en 2012, quand Jacques Delisle était reconnu coupable de meurtre prémédité. Donc, juridiquement, c'est un dossier qui est clos, mais sur la trame factuelle des événements, sur ce qui s'est véritablement passé, ben les parties s'entendent toujours pas à ce jour et on n'aura pas de procès, évidemment, pour clarifier tout ça. Là, c'est du passé maintenant, cette histoire-là.
Catherine, tu es journaliste d'enquête au bureau d'enquête de Québécois. Tu suis ça, comme Yannick dit, depuis le tout début. Il y a une portion qui est professionnelle là-dedans, mais il y a une portion aussi qui émane un peu de la personnalité que tu as. Je veux dire, tu es en enquête, t'aimes ça aller au fond des choses. Est-ce qu'il y a une déception? T'sais, avant de parler du reste, y a-t-il une déception dans le fait de ne jamais avoir de conclusion sur ce dossier-là?
Ben je vois pas ça comme une déception, plus comme un grand mystère, puis une espèce, enfin plus un aura de mystère que j'ai envie de fouiller davantage. C'est pour ça qu'on a annoncé là, en début de semaine dernière qu'on travaillait actuellement sur un documentaire sur l'affaire de Lille. En fait, c'est la boîte de production Pixcom qui produit le documentaire en collaboration avec Québécois Contenu. Donc, justement, face à cette espèce cette nébuleuse-là, cet inconnu-là, ben nous, on a plus envie de fouiller davantage et de voir si on n'est pas capable d'aller créer des ondes de lumière dans tout ça.
Catherine, est-ce que toi, tu l'as rencontré, l'ex-juge de Lille? Je pense que oui, hein, tu lui avais jasé régulièrement, là.
Ben en fait, j'ai rencontré à deux reprises en prison quand Jacques Delisle a été condamné là, pour le meurtre prémédité de son épouse en 2010. 2012, il a été condamné évidemment à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Donc, quelques mois plus tard, je suis allée le rencontrer une première fois. C'était d'abord pour lui présenter le projet de livre sur lequel on travaillait.
Ouais.
Et il y a eu une seconde rencontre là, par la suite en 2014, vraiment pour faire une entrevue de 2 heures, là, enregistrement sur la table, où j'ai pu discuter longuement avec lui. Ouais.
Comment était-il en tant qu'individu? Parce que moi, je me souviens du procès du juge de Lille, ce que je voyais à la télé. Je me souviens des images vidéo où le juge de Lille s'approche très près de la caméra puis regarde la caméra comme s'il voulait rentrer à l'intérieur de mon salon pour me manger. Techniquement, quand toi, tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu pensais au départ? Puis par la suite, comment tu as découvert le personnage? Puis, tu sais, ça fait déjà quelques années, là, tu le percevais comment quand tu l'as rencontré?
Ben c'est ça. Moi, je sais après ça que je le connais pas personnellement, le genre de Lille, dans le sens que c'est quelqu'un que j'ai vu à plusieurs occasions, évidemment, dans les 15 dernières années, étant donné tous les revirements dans les procédures judiciaires. C'est quelqu'un avec qui j'ai pu m'entretenir à 2 occasions. Mais c'est sûr que la relation entre les médias et Jacques Delisle, elle était pas facile. On sent que tout le clan Delisle là, avait une espèce d'intimité, voulait préserver un peu le cocon, et on sentait qu'il nous sentait très intrusif par rapport à ça. Monsieur Delisle a déjà eu des mots très durs là, pour les médias, son fils aussi notamment. Donc ça a été des relations parfois difficiles. Ça a fluctué, je vous dirais, dans le temps. Maintenant, Jacques Delisle a toujours été présenté comme un être rigoureux, sévère, froid. En tant que juge, c'était quelqu'un qui était extrêmement respecté, très droit, toujours préparé quand il arrivait sur le banc. C'est un juge qui était même craint là, par certains avocats plaideurs qui avaient tout avantage à arriver, eux aussi, très préparés, parce que le juge Jacques Delisle n'hésitait pas à reprendre des avocats qui fourvoyaient, que ce soit dans des notions de droit, dans la preuve ou même la manière dont il s'exprimait, parce qu'on le sait que Jacques Delisle était un amoureux de la langue française et que ça lui tenait à cœur, qu'il avait horreur de l'incompétence aussi. Donc tout ça, ça a été quand même bien présenté au procès et je pense que certains membres du public aussi là, avaient cette image-là là, d'un juge très froid. C'est sûr que quand moi je lui ai parlé, c'est une discussion qui est professionnelle. On a parlé de sa vie, de sa carrière, de sa relation avec son épouse, de ses amis, de ses années à la magistrature, de l'impact que toutes les procédures judiciaires avaient eu sur lui. Ça restait un homme quand même poli, ouvert, et je vous dirais qu'il a été généreux aussi dans ses confidences à l'époque. Maintenant, dans l'intimité, je ne le connais pas. Quand je parle de l'intimité, ouais. C'est dans la sphère à la maison, dans la sphère familiale, mais ses enfants avaient quand même dépeint de lui un être qui était généreux, présent, qui travaillait beaucoup, mais que quand il était là en famille, il était tout là.
Est-ce qu'il a adopté son témoignage dans les 2 fois où il t'a rencontré? Est-ce que la première fois, il t'a dit peut-être la deuxième fois le contraire de ce qu'il t'avait dit la première fois?
Non, on avait des balises très claires aussi là, en 2013-14 quand ces rencontres-là ont eu lieu. Il faut se replacer dans le contexte. Là. À l'époque, M. Delisle était condamné là, pour le meurtre de son épouse et il continuait de plaider son innocence. Donc, toute la portion des 10 dernières années là, où il y a eu une adresse au ministre pour une demande de révision ministérielle et que là, Jacques Delisle a livré sa version des faits parce qu'on se souvient... Monsieur Delisle n'avait pas témoigné au premier procès, donc on savait pas trop là ce que lui avait à dire sur le décès de son épouse. Il disait qu'il était innocent, que c'était un suicide, mais il était pas venu expliquer ça dans la boîte des témoins à l'époque. Donc, nos rencontres ont vraiment porté sur tout, sauf les faits au dossier.
Tu travailles sur un documentaire en ce moment avec une équipe. On peut s'attendre à quoi de plus de ce qu'on a connu peut-être dans ton livre ou encore de ce qui a été rapporté dans les médias?
Mais il faut dire que mon livre est sorti en 2014. Ça couvrait vraiment le premier procès, la genèse de ce procès-là, l'enquête policière aussi qui a mené à ce procès-là, toutes les premières expertises aussi, parce qu'on se souvient, ça a été un gros débat d'experts à l'époque. Tout ça reste encore pertinent ce jour, mais il y a une décennie qui s'est écoulée depuis. Et durant cette décennie-là, ben il y a eu une adresse au ministre, il y a eu une ordonnance d'un nouveau procès, il y a eu Jacques Delisle qui est sorti de prison, il y a eu toutes les nouvelles expertises aussi. Puis après ça, ben il y a eu un arrêt des procédures là-dedans, on oublie, mais pendant une certaine période de temps, Jacques Delisle était libre, il ne faisait face à aucune accusation. Cet arrêt des procédures-là a été cassé, le deuxième procès finalement devait se poursuivre, on en est arrivé finalement au plaidoyer de culpabilité. Donc, c'est l'affaire de Lille, c'est 15 ans de rebondissement. Puis moi, en tant que journaliste, j'ai extrêmement cheminé là en suivant cette saga-là. Ça m'a appris énormément sur l'appareil judiciaire. Et c'est tout ça, dans le fond, on veut replonger dans cette saga-là. On veut... Des fois, on oublie aussi. C'est passé tellement de choses qu'on oublie. Donc, on veut replonger là-dedans, puis on veut voir si on n'est pas capable d'éclaircir, justement, là, certains mystères qui pourraient perdurer malgré la fin juridique là, judiciaire de ce dossier. Okay.
Donc, dans le documentaire, là, tu vas couvrir le jour 1 de l'histoire de l'île jusqu'à sa fin, finalement.
Exact.
Ah, c'est nice.
Catherine, en 2024, le rôle d'une journaliste d'enquête, est-ce que c'est le même que lorsque tu as commencé? Parce qu'il y a beaucoup moins de, comment dire, de budget pour le faire, mais ça reste essentiel. Vous êtes encore les chiens de garde de beaucoup de dossiers. Pour avoir les deux pieds dedans, puis être quand même dans un média qui a la possibilité d'avoir des poches un peu plus profondes que d'autres, comment on le vit au quotidien? C'est quoi la mission d'une journaliste d'enquête comme ça?
Ben d'abord, c'est un privilège là, de faire de l'enquête parce que tu le dis, la situation des médias, c'est de plus en plus difficile. Il y a de moins en moins de journalistes. Il y a de moins en moins d'argent aussi pour faire du journalisme. Et on est en concurrence là contre les géants du web. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un privilège et c'est une nécessité qu'il y ait encore du journalisme d'enquête. Il faut que des gens se penchent sur les enjeux qui bercent notre société puis ce qui fonctionne pas, ça, c'est clair. Écoutez, nous, à Québécois, on a le bureau d'enquête qui existe depuis plus de 10 ans déjà. Moi, c'est une organisation que j'ai... Ça fait 15 ans que je suis au Journal de Québec, mais ça fait... 3 années là, que je suis au bureau d'enquête. Et c'est ça, je le vois vraiment comme un grand privilège, mais aussi comme une grande nécessité. Je pense que les enquêtes qu'on fait au bureau et qui se font là aussi dans les autres organes de presse, je me répète, mais c'est vraiment une nécessité là pour une saine administration politique. On est le chien de garde de la démocratie. Je pense aux enquêtes de mes collègues, là, Annabelle Blais puis Dominique Cambron-Goulet, qui ont fait éclater vraiment... des dépenses scandaleuses à l'OCPM à Montréal.
Mais aussi cette semaine, le dossier que vous avez fait sur le propriétaire du Dagobert, veut pas. Après ça, on s'est mis à enquêter du côté de Revenu Canada pour ces raisons-là, parce que vous avez mis en lumière des choses. Ça reste essentiel au quotidien, mais ça reste complexe aussi maintenant. Les documents
sont
de plus en plus caviardés, on vous cache de plus en plus d'informations, on met des règlements et des lois en place aussi pour peut-être rendre votre travail plus difficile.
C'est sûr que c'est complexe, ça demande du temps, ça demande beaucoup de rigueur aussi, de vérification, de contre-vérification. Donc tout ça, c'est ça, le temps c'est de l'argent quelque part, là. C'est sûr que ça demande des investissements, puis moi je me trouve choyée de pouvoir évoluer au sein justement du bureau d'enquête qui comprend cette nécessité-là, qui comprend que ça demande du temps, de l'argent, des vérifications, et qui met à notre disposition tous les outils nécessaires aussi pour qu'on puisse bien faire notre travail et informer le public, parce que c'est pour ça qu'on le fait.
Catherine Lamontagne, le documentaire sur l'affaire du juge de Lille va être rendu disponible quand?
On vise fin 2025, mais je dois vous dire qu'on travaille très fort là, pour réaliser ça le plus rapidement possible, mais on va surtout prendre le temps qu'il faut pour bien le faire.
Catherine, c'est toujours un plaisir.
Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Bye-bye, Catherine Lamontagne, qui est l'excellente journaliste du bureau d'enquête de Québécois. Merci beaucoup pour l'entrevue. Je trouve ça très pertinent.
Je trouve ça fun. Le juge Jacques Delisle, là, ça va passer. On va en parler encore dans plusieurs années. Puis, mettons, elle a dit, je suis pas déçue de ça. C'est quelque chose de mystérieux. Moi, je suis déçue. Officiellement, je suis déçu que ce deuxième procès-là ne se soit pas rendu à la toute fin.
Ouais. Puis, tu sais, moi, je me souviens, je regardais ça à la télé, je recevais l'information, je trouvais ça intéressant comme histoire, mais ce qui me faisait halluciner, c'est de voir à quel point Delisle était dangereux pratiquement pour les journalistes. Mm-hmm. Il ne les aimait pas du tout.
Mais ça me faisait croire que... comme chez n'importe qui, là, t'sais, on a tous un biais humain en arrière de ça. Mais ben moi, mon biais humain, c'est qu'est-ce que t'as caché pour être aussi agressif?
Ouais, puis pour être très honnête avec toi, je me disais, ben, t'sais, si j'avais rien fait, puis les journalistes étaient constamment après moi comme ça, j'aurais peut-être cette réaction-là. Puis.
T'avais réfléchi contraire, toi?
Ouais.
Okay.
Puis jusqu'à temps où j'apprenne que Jacques Delisle avait une maîtresse.
Là, ton biais humain, mettons, pas journalistique et neutre.
La thèse de la couronne. M'a comme dit, OK, ça a comme un peu plus de bon sens. Là. Jacques Delisle avait une maîtresse, c'était une hypothèse en passant. Là. Il aurait peut-être pu tuer sa conjointe pour pouvoir vivre de meilleurs jours avec sa maîtresse. Je suivais ça comme un feuilleton américain, mettons.
C'est vrai que ça faisait un peu feu de l'amour à un moment donné.
Parce que tu sais, t'avais tendance à dire, ben, tu pauvre petite, était malade, il l'a aidé, puis pouf, la maîtresse. Oh, c'est un élément qu'on n'avait pas.
Mais penses-tu aux enfants? J'y pense tellement souvent, moi, puis...
C'est des victimes.
Hey, c'est des...
Les enfants sont des victimes.
C'est la meilleure façon de le décrire. Pour moi, c'est exactement ça, Yannick. T'as mis le doigt sur le meilleur mot pour ça.
Ils ont perdu leur mère, puis leur père, ils l'ont perdu parce qu'il est rentré en prison.
Puis aussi, ils doivent être déchirés, là. À moins qu'ils soient convaincus d'une version.
Le fils, celui qui parlait régulièrement, le fils est convaincu que son père n'avait rien à voir avec ça.
Ouais.
Puis quand son père a plaidé coupable, j'aurais été curieux d'être un petit oiseau pour entendre la discussion entre les deux. Là.
Moi aussi.
Parce que quand quelqu'un te défend, jusqu'à temps que tu dises hey, « finalement, c'est pas ce que tu pensais, j'ai aidé ta mère à se suicider. »
Mettons que je réfléchis, Yannick, là. T'as un discours que tu peux tenir publiquement, mais t'as aussi ta tête continuellement sur ton corps qui peut réfléchir puis se questionner pour justement pas perdre ton autre parent dans une histoire judiciaire. Si jamais il y avait une souffrance constatée pour vrai, tu sais, parce que lui, il a défendu aussi qu'il était très malade, etc., qu'il pouvait plus rien faire. Puis des fois, à me laisser croire que dans son discours au juge de Lille, feu juge de Lille, que c'était peut-être pour abréger certaines souffrances, si jamais. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu explorer plus en profondeur.
En tôle, le juge de Lille a été longtemps à l'infirmerie en raison du fait que le gars, c'est un ex-juge, donc tu mets pas un juge avec la population carcérale.
Qui a peut-être jugé.
Normal. Mais ce qu'on m'a rapporté, moi, en tôle, c'est que le juge de Lille, c'était un gentleman. Il aidait les gars de sa « wing », entre guillemets. Là. Il aidait les gars de sa « wing » pour des dossiers.
Pis ça, c'est « gentleman » pour toi? Aider des gens...
Non, mais je veux dire...
Mais il faisait encore de la jobine, mais...
Un avocat de la défense, là, c'est pas un trou de cul. Là.
C'est pas ça que j'ai dit.
Il est capable d'aider son détenu à faire respecter ses droits.
Mais il est pas en prison, l'avocat de la défense, pendant ce temps-là.
Mais l'autre travaille avait des connaissances.
C'est quoi, là, maintenant? On travaille... comment on explique ça? Travailler sans être payé bénévole. De façon... non. Sans être, mettons... Ouais, il était peut-être bénévole. Il faisait peut-être du bénévolat, là.
Tu penses que
Jacques Delisle.
Il échangeait des conseils en droit contre un cop de lait,
j'ai rien dit de ça. Un peu de plus de patates pilées.
On vient.
Marceau le midi.